Libéré, relevé, c'est le titre de son dernier livre paru chez MAM et écrit à quatre mains avec la journaliste Natalia Trouillet. Nous allons le feuilleter ensemble et tâcher, grâce à lui, de comprendre comment Dieu nous sauve. C'est la promesse de son sous-titre. Bonjour Olivier de Saint-Martin.
Bonjour Isabelle.
Faut-il le rappeler, hein, vous êtes prieur de la province dominicaine de Toulouse et donc l'auteur de ce petit livre que j'ai dans les mains. Tout de suite, d'ailleurs, une précision à l'endroit de ceux qui nous écoutent. Hein. Il n'y a ni Elsa, ni Anna, ni Bonhomme de Neige hein, dans ce livre. Il s'intitule « Libérer, relever et non délivrer ». Cette différence est importante, Père Olivier de Saint-Martin. C'est presque une définition de la miséricorde, d'ailleurs.
Oui, alors c'est ce qu'on a voulu. On a voulu trouver un titre avec l'éditeur qui soit un tout petit peu accrocheur. Alors, Jésus dit qu'il est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Donc évidemment, comme c'était en 2018, donc on était encore dans les suites du film de Walt Disney. Bon, c'est une enfant hein, qui a eu l'idée quand on en parlait. Et puis bon, évidemment pour des questions de droit, on pouvait pas prendre libérer, délivrer, évidemment. Et donc on a pris ce relever et qui est très beau parce que c'est la manière dont on est remis debout.
Et oui, c'est ça, c'est une définition de la miséricorde. C'est le thème central du livre, hein, pour qu'on comprenne bien la miséricorde. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a quelque chose de très important. Je l'ai dit tout à l'heure, puisque nous le faisons gagner toute cette semaine sur Radio Présence. Quelque chose de très important, c'est sa forme. Alors, la forme, c'est celle d'un entretien d'apparence badin avec la journaliste Natalia Trouillet, qui vous ménage pas, elle vous cuisine même. Et cette forme d'un dialogue, elle dit quelque chose de ce que nous avons à vivre avec Dieu, je crois. Hein.
Oui, tout à fait. Je crois que quand on parle de miséricorde, et plus particulièrement encore du sacrement de la réconciliation, très souvent, en fait, on fait ça selon un ordre qui est très moral. En fait, qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Et on oublie l'essentiel qui est qu'au fond, que dans toute la révélation, Dieu est celui qui se penche vers nous parce qu'il veut créer une relation avec nous. Il veut faire de nous ses enfants, il veut faire de nous ses amis. C'est-à-dire qu'on dialogue vraiment avec lui. Et la question du dialogue a permis, je crois, cela. C'est ce qu'on s'est dit, c'est au fond, en dialoguant l'un avec l'autre, sans concession, parce qu'effectivement, Natalia pose vraiment
elle
des
y va
questions
franco.
Qui...
Ouais, ouais.
Oui, elle y va franco, avec des questions qui sont parfois difficiles, qu'on esquive, que j'aurais peut-être esquivé et sans doute esquivé si j'avais écrit un bouquin tout seul. Tandis que là, voilà, il fallait répondre aux questions. Et ce qu'on a voulu, c'est effectivement qu'on n'élude pas les questions qu'on peut se poser, aussi les questions qu'on peut poser à Dieu. Vous savez, moi, j'aime beaucoup quand Abraham négocie avec Dieu parfois. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que Dieu est celui à qui on peut poser toutes les questions, y compris quand on ne comprend pas, et peut-être surtout quand on ne comprend pas.
Et oui, et il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, vous dites quelque part hein, qu'on n'a pas réponse à tout. Hein. Il faut accepter de ne pas avoir réponse à tout.
Et je trouve que c'est très bon signe de ne pas avoir réponse à tout. La foi n'est pas quelque chose qui m'enferme dans un système qui me conforte. La foi, l'évangile, est quelque chose qui me provoque sans cesse à aller plus loin, à laisser Dieu évangéliser les tréfonds de mon cœur et qui m'oblige, moi, à essayer de répondre, à aimer encore plus. Et il y a des fois, face au mystère du mal, on se tait, on n'a pas de... Voilà, il y a un grand silence qui se fait et il faut l'accepter. Et parce que ce silence peut être aussi le moment où quelque chose de neuf commence à naître dans notre cœur.
Alors il y a quelque chose que je trouve très beau, qui est très touchant aussi dans ce livre, hein, Libérer, relever, c'est toute la question de la progressivité, la découverte progressive de Dieu qui se découvre petit à petit. Ça c'est très important aussi, c'est ce que l'homme a rompu dans le jardin d'Éden et qui l'a marqué, c'est le fameux péché originel. Dieu qui se découvre petit à petit, on ne le sait pas assez ça.
Oui, je crois que Dieu respecte infiniment notre nature, notre progression. Alors, dès le départ, avant le péché originel, parce que je crois que la première miséricorde de Dieu, c'est d'avoir voulu créer l'homme pour nous faire participer à sa propre vie. Ça, c'est quelque chose. La miséricorde n'est pas juste dans l'ordre du pardon, vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et Dieu a voulu nous créer pour nous faire participer de ce qu'il est. Et voyant notre nature humaine, la connaissance, c'est lui qui l'a créé, et ce qu'il a voulu, c'est nous faire progresser petit à petit, pas à pas, vers lui. Et puis, après le péché, bah, c'est la même chose. Au fond, nous, ce qu'on attendrait de temps en temps, voire même souvent, c'est quelque chose d'un peu magique, c'est-à-dire qu'il y a un avant, un après, tout est différent. Bah non, la grâce, l'amour de Dieu, la vie de Dieu va épouser notre vie, va nous accompagner progressivement. Donc ça, c'est de notre côté. Et pour qu'on puisse être accompagné progressivement, bah effectivement, Dieu, dans la révélation, va se révéler petit à petit. D'abord comme un père, puis ensuite comme un ami, un frère avec Jésus. Les deux, le père comme le frère, restent un peu extérieurs. Et puis, bien, tout le mystère pascal va nous conduire à la Pentecôte, où finalement, ça, c'est l'ultime miséricorde de Dieu, hein. Il se révèle comme un père qui veut nous adopter. Il se révèle comme un frère qui nous donne la vie, qui nous réconcilie avec Dieu à Pâques. Et puis, bien, l'ultime miséricorde, c'est je veux pas vous sauver sans vous. Je veux pas que ce soit juste de l'extérieur. Alors, je ne vais pas vous accompagner uniquement comme un ami, je vous donne mon esprit pour que vous puissiez, ce que j'ai vécu, je vous puissiez le vivre vous aussi par vous-même et que vous soyez les ouvriers de votre propre salut.
Alors, il y a une image que vous utilisez, c'est celle du tableau de William Hunt, la lumière du monde. Jésus, il frappe à une porte dans la forêt et la porte n'a pas de poignée, extérieure.
Extérieur, oui.
C'est Dieu qui ne s'impose pas, en fait, hein.
Ben voilà, je crois que c'est vraiment, enfin pour moi c'est un tableau qui est extraordinaire parce qu'il dit toute la délicatesse de Dieu. Il y a cette maison qui est la nôtre, qui est au milieu d'une forêt de nuit, qui est un peu claquemurée comme on peut avoir peur. Moi je me souviens quand j'étais gosse, hein, à la fois j'étais fasciné par les bruits de la forêt de nuit et en même temps j'étais mort de trouille. Et là, ben, donc tout était claquemuré. Et puis, Jésus est là avec une lampe et il frappe à la porte. Alors ça fait référence au livre de l'Apocalypse, hein, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Et est-ce que je vais accepter d'ouvrir? Est-ce que je vais accepter de fendre l'armure? Parce que c'est souvent comme ça que la grâce passe, hein. Vous le disiez, cette révélation progressive de l'amour de Dieu pour moi. Ben, Dieu frappe à travers telle porte, telle fenêtre, telle faille de ma vie. Est-ce que j'accepte de fendre l'armure? Pour laisser Dieu m'aimer, parce que c'est pas si facile que ça d'accepter d'être aimé dans ses fragilités, dans ses fautes.
Est-ce qu'il se cherche quand même, au risque de vouloir trouver Dieu à la force du poignet? Est-ce qu'il faut le chercher?
Oui. Alors c'est une espèce de ligne de crête,
Bah
parce
oui.
que à la fois tout nous est donné, le salut nous est donné, mais Dieu ne veut pas nous sauver sans nous. Donc il faut le chercher, il faut se tendre, enfin voilà, oui, il faut le chercher de tout notre cœur, frapper et on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, dit Jésus. Mais en même temps, il s'agit d'accueillir. Hein, il s'agit d'accueillir, c'est-à-dire qu'on ne va pas se sauver à la force du poignet, enfin en général, ça se casse la figure assez rapidement. Si on essaye d'avoir une vie morale purement par nos propres forces, à un moment donné, ça risque d'exploser. Il faut chercher à avoir une vie morale. Il faut le faire, il faut chercher à acquérir la vertu. C'est hyper important. Mais si on le fait par nous-mêmes, c'est un peu comme en remontant le Mississippi de Lick Lick, vous savez, c'est la Désibel, on empêche la soupape d'évacuer. Et puis, à un moment donné, ça explose. Alors, il faut chercher à remonter le courant, comme la Désibel, mais simplement, il y a une chose qu'il faut faire, c'est se rendre compte que c'est par la grâce de Dieu qu'on va réussir à le faire. Et donc accueillir la grâce de Dieu, cette grâce qui est apaisante. Vous voyez, au fond, je dirais que c'est Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Cherchez Dieu, soyez parfaits comme votre Père est parfait, mais pour réussir à vivre de cette perfection, elle est inaccessible pour moi, j'ai besoin d'une grâce et de sa grâce qui est, au fond, très apaisante.
Est-ce qu'il se révèle de la même manière à tous? Ma
Oh
question
non.
a un peu la réponse à l'intérieur. J'aurais tendance à dire non.
Oui, non, 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 c'est puisque Dieu, vous le disiez tout à l'heure, puisque Dieu veut nouer une relation avec nous, une relation personnelle, sa révélation à chacun de nous sera intimement personnelle. Et d'ailleurs, vous voyez, on pourrait le retourner en disant, à la fin de ma vie, Dieu ne vous demandera pas, ne me demandera pas, pourquoi est-ce que tu n'as pas été Mère Teresa, pourquoi est-ce que tu n'as pas été François d'Assise? Dieu me dira, quand est-ce que tu as vraiment été Isabelle? Quand est-ce que tu as vraiment été frère Olivier? Et parce que son regard sur moi est absolument unique. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu nous aime tous absolument autant, mais il a pour chacun de nous un amour qui est absolument unique. Un amour à la fois universel et à la fois absolument personnel.
Alors, découvrir comment Dieu nous sauve, hein, c'est la promesse de votre livre, Libéré, relevé, frère Olivier de Saint-Martin, qu'on découvre et qu'on feuillette ensemble. J'ai une question quand même qui me titille. On est sauvé une fois pour toutes, oui ou non? Ou bien alors c'est à travers le baptême qu'on est sauvé, c'est quand on va se confesser qu'on est sauvé. Quand est-ce qu'on est sauvé?
Alors, on est sauvé le jour où Jésus nous réconcilie l'homme avec Dieu, hein, ce mystère pascal qui va du jeudi saint au dimanche de la résurrection. Ça, c'est le mystère central de notre salut. Tout est donné à ce moment-là. Et cela va s'exprimer dans ma vie personnelle au jour de mon baptême. Je reçois au jour de mon baptême la vie d'enfant de Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Mais ce n'est pas parce que cela m'est donné que j'en vis. Et donc, je
Qu'est-ce que
suis
ça veut dire
sauvé.
ça?
Eh bien, ça veut dire que oui, j'ai été sauvé par cet acte unique du Christ à travers le baptême,
Une fois
mais
pour
qu'à un
toutes.
moment donné, je peux parfaitement délaisser ce que j'ai reçu. Je peux parfaitement le mettre de côté, ne pas en vivre. Et donc, il ne suffit pas d'avoir été baptisé, il ne suffit pas que Dieu m'ait aimé jusqu'à donner sa vie pour moi. Il va falloir, pour que je vive du salut, il va falloir que je réponde à cet amour premier de Dieu pour moi. Il va falloir que je réponde, que je m'en saisisse. Dieu ne cesse de venir à ma rencontre. Est-ce que je le laisse entrer dans ma vie? Est-ce que je laisse l'évangile irriguer, informer, vivifier mon existence de chaque jour? Et c'est là que mon salut, il va se déployer petit à petit. Les saints, ce sont ceux qui justement ont réussi à ce que l'évangile prenne tout dans leur vie.
Être
Et à
sauvé, ça
partir
ne veut
de
pas dire qu'on n'a plus qu'à se tourner les pouces, quoi.
Exactement, exactement. Ça, ce serait le danger, ce serait de la fainéantise spirituelle, du providentialisme. Vous savez, on s'allongerait tous dans des lits en disant, nous sommes des signes eschatologiques qui attendons la venue du Sauveur. Non, c'est pas ça. La vie chrétienne n'est pas ça. L'évangile nous provoque sans cesse. Et alors, les sacrements, l'Eucharistie, la confirmation, le sacrement de la réconciliation vont être là pour faire grandir en nous cette grâce, parce qu'on en a besoin. Vous avez reçu la vie un jour, mais pour être vivante, pour vous sentir vivante, vous avez besoin de dormir et de manger. Vous avez besoin de manger. Nous avons besoin de recevoir la nourriture qui vient du ciel, qui est l'Eucharistie. Vous avez besoin d'aimer. Vous avez besoin, pour être vivante, vous êtes plus vivante lorsque vous aimez, lorsque vous réfléchissez. Eh bien, dans la vie chrétienne, nous sommes plus vivantes lorsque nous vivons de l'Évangile. Parfois, nous n'y arrivons pas, souvent même. Sans la grâce de Dieu, on est capable de planter des choux et pas de faire grand-chose d'autre. Et pour cela, pour retrouver la grâce de Dieu, eh bien, il y a le sacrement du pardon qui vient transformer nos non en oui, nos sources, nos déserts en sources de vie.
Eh bien, merci beaucoup. Il y aurait encore 1000 questions, évidemment, à vous poser. Grâce à Natalia Troulier, elle trouve un écho dans ce formidable petit livre Libérer, relever, comment comprendre comment Dieu nous sauve. C'est aux éditions MAM. Un grand merci, Père Olivier de Saint-Martin.
Merci à vous, Isabelle. Bonne journée.